Bonjour Monsieur Marc Goldschmidt, nous sommes toujours Radio Campus Bordeaux, nous sommes au festival Philosophia 2023. Nous avons eu le plaisir de participer à votre conférence L'Art et l'Autre. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Radio Campus?
Oui, alors écoutez, je suis philosophe, professeur de philosophie. Je dis philosophe parce que j'ai écrit plusieurs livres de philosophie, 7, un 8e à paraître. Je suis directeur de programme au Collège International de Philosophie, son ancien président et directeur. Je me présente à minima de cette manière.
Donc le thème de votre conférence était la question de l'art et l'autre, et la question de l'autre, le grand autre, autrui, le sublime, le beau. Enfin, il y a pas mal de thèmes qui ont été abordés lors de votre présentation. Est-ce que vous pouvez, en référence à Kant comme vous avez fait hier, expliquer comment le sublime dans l'art illustre-t-il l'altérité irréductible de l'autre?
Donc mon idée, c'était de, lorsque j'ai été invité à Philosophia et que j'ai découvert le thème l'autre, je me suis dit que la première chose que je devais faire dans mon intervention, c'était de quelque chose que d'autres ont fait d'une autre manière, c'est essayer de, sinon cerner ou proposer un concept, en tout cas présenter la question. Et donc je suis parti de l'idée que le grand autre, avec un A majuscule, c'est pour ça qu'on l'appelle grand autre, n'est pas le petit autre. Donc c'est pas la même chose, on va dire, si on en fait un sujet ou si on le laisse comme adjectif. Donc je suis parti lors de mon exposé d'une distinction traditionnelle dans l'histoire de la philosophie, qui est la distinction entre autre et autrui. Donc je suis parti de l'idée que, enfin, j'ai essayé d'expliquer, notamment à partir de Descartes et des travaux de Husserl, que autrui est à la fois un autre moi, un autre ego, en tant qu'il est, que je le rencontre dans, par exemple, je le rencontre comme un objet, c'est-à-dire que comme un objet de mon regard, de ma connaissance, de mon attention. Et il est en même temps autre que moi, c'est-à-dire je le rencontre aussi, pas toujours, mais aussi comme un sujet. C'est-à-dire qu'il se manifeste à moi comme quelqu'un qui peut lui-même exercer le regard, qui peut lui-même me transformer en objet de son regard, de sa connaissance, de son attention, qui peut m'aimer, me détester. Donc en fait, en tant que tel, autrui, alors aujourd'hui on dit décentre de manière très facile, me renverse la relation, c'est-à-dire fait que je ne suis pas seulement un sujet, mais que moi aussi je peux devenir... objet, ça veut dire dépendant et dérivé d'autrui. Je peux en dépendre, par exemple, je peux dépendre d'autrui si j'attends son amour, un regard amoureux, et donc ou un regard de reconnaissance, par exemple un professeur pour un étudiant, ne serait-ce qu'une notation d'une copie, c'est un regard de reconnaissance. En tout cas, c'est une relation de reconnaissance, et donc mon identité, mon rapport à moi-même, il dépend de autrui. Alors là, on peut entrer dans des choses très complexes que j'ai pas développées dans l'ouverture de mon exposé hier matin au Festival Philosophia 2023, mais ce que je peux vous dire, c'est que donc l'autre, en pensant à différents travaux, à la fois philosophiques et extra-philosophiques, notamment tous les travaux, toutes les réflexions qui proviennent de la psychanalyse, et notamment de la psychanalyse freudienne et lacanienne, et des philosophes qui ont lu Lacan et Freud et qui se sont expliqués avec eux, chez eux, on trouve une thématisation, une réflexion sur la question de l'autre avec un A majuscule, c'est-à-dire quelque chose que dans la tradition théologique et philosophique, on a très facilement, très rapidement appelé Dieu, qu'on peut appeler Dieu, hein, mais qu'on peut appeler aussi, alors je l'ai dit hier en plaisantant à demi-mot, mais c'est en même temps pas du tout de la plaisanterie, maman, on peut l'appeler maman quand on est un bébé pas encore né. Qui vient de naître, pardon. L'autre peut prendre, l'autre, grand autre, peut prendre différentes figures. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est que si autrui était autre et venait m'altérer, c'est qu'il participait d'une certaine manière à ce grand autre qui est, dont j'ai essayé de donner des déterminations les moins métaphoriques possibles, mais on est toujours dans la métaphore quand on parle de quelque chose qui est séparé et qui n'est pas une chose et qui n'est pas un sujet. Donc j'ai dit c'est quoi? C'est ce qui nous arrive, c'est l'événement en tant qu'il nous atteint mais que nous on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas se le représenter. Peut-être que c'est quelque chose dont on fait l'expérience, entre guillemets, sans en faire l'expérience au moment de la naissance ou de la mort. Donc c'est quelque chose qui relève d'un trouble, d'un choc. C'est quelque chose avec quoi on n'est pas dans un rapport de face à face, de sujet à objet ou de sujet à sujet. Et donc, en venant à Philosophia, je me suis dit, bon, peut-être qu'une chose intéressante, ce serait de se demander quelle relation ou tentative de pensée de l'autre on a en dehors de la philosophie ou différent de la philosophie. Et pour moi, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'art, qui est dont l'affaire est, et dont j'essaie de montrer qu'une des affaires ou l'affaire principale était celle de l'autre. Et donc, c'est ça mon pari initial qui a fait que j'ai donné l'exposé que j'ai donné hier matin, c'est que l'autre, le grand autre, et son lieu privilégié est l'art. Alors par n'importe quel art. Et donc je suis parti, c'est comme ça que je suis parti de l'esthétique de Kant, c'est-à-dire de la critique du jugement, de l'analytique du beau et du sublime. Et donc j'ai essayé d'expliquer ce que c'était que ce tournant esthétique dans la conception de l'art. Et j'ai essayé d'expliquer que notamment dans l'analyse ou l'analytique du sublime, il était très peu question de l'art, puisque comme Kant l'explique très très clairement, le beau ou ce qui est esthétique, c'est-à-dire ce qui me fait un effet de plaisir ou de peine, hein, puisque l'esthétique n'est pas dans l'objet, il n'est pas objectif, il est dans l'effet qui est suscité, l'effet sensible qui est suscité sur un sujet, et le beau se trouve plus, dit Kant, dans la fleur que dans un tableau. Donc là, on n'est pas dans le domaine de l'art quand on est dans l'analytique du beau, c'est-à-dire proprement dans l'esthétique, dans ce qui est esthétique, c'est-à-dire qui suscite en moi sujet un effet de plaisir ou de peine qui me plaît. Alors j'ai essayé de rappeler les déterminations kantiennes du concept de beau et de goût. Différent de l'agréable, sans concept, sans intérêt, finalité sans fin et éprouvée de manière comme une nécessité de la nature.
Avant de revenir sur cette conférence, moi j'ai une question sur le sujet de votre thèse, parce que vous avez travaillé sur l'écriture du messianique, la philosophie secrète de Walter Benjamin. Et ma question c'est, elle a quoi de secret cette philosophie? Pourquoi ce terme en particulier?
Alors là, c'est vraiment une autre question, mais je vous remercie beaucoup parce que bon, un travail de thèse, c'est toujours très particulier dans une vie, on va dire, intellectuelle. Alors Benjamin est très cité aujourd'hui, il est une référence de plus en plus, visible dans les textes des philosophes. Une des premières choses que je voulais faire, c'était d'abord lire tous ces textes de 1916 jusqu'à 1940, c'est-à-dire les premiers textes sur le langage humain et le langage en général, qui semblent être des textes imprégnés de théologie, en tout cas qui s'expliquent longuement avec certains passages de la Bible. Jusqu'aux derniers textes de 1940, qui sont les textes de philosophie de l'histoire, en passant par le texte très complexe qui s'appelle Pour ou vers une critique de la violence, donc qui est un texte des années 20, le texte sur la traduction qui date de la même période, qui est une préface aux traductions par Benjamin des Fleurs du mal de Baudelaire en allemand. Cette préface s'appelle La tâche du traducteur et développe des hypothèses qui ont beaucoup compté dans la théorie de la traduction et qui sont en même temps des hypothèses qui sont en même temps beaucoup écartées ou en tout cas minorées ou déconsidérées par les théoriciens de la traduction. Par certains théoriciens de la traduction qui les citent, mais qui en même temps les sous-traitent. Et aussi, alors, deux autres textes. Le texte de 1935, dont il existe plusieurs versions, la dernière datant de 1939, l'œuvre là d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, qui est un texte très long, très compliqué et très difficile à lire et qui contient des thèses et des avancées essentielles dans la réflexion sur l'art. Et aussi une dernière chose, je me suis beaucoup intéressé à la thèse d'habilitation de Benjamin, qui est le livre sur l'origine du drame baroque allemand, donc le livre sur le Trauerspiel, la tragédie moderne, parce que il m'a semblé, enfin c'est une des choses que je prétends avoir fait apparaître dans ma thèse, que c'est une matrice de la pensée de Benjamin. Alors ce travail d'habilitation, vous savez, en littérature allemande, puisque Benjamin était inscrit pour une habilitation en littérature allemande et se présentait comme le plus grand critique littéraire de l'Allemagne. Et c'est là je mets une pierre pour me permettre de répondre à votre question sur le secret. Hein. On a convaincu Benjamin de ne pas présenter son habilitation. C'est Max Horkheimer qui a joué un très mauvais rôle dans cette scène. Et je dis ça parce que vous savez, Benjamin a été voué à une vie d'errance et de misère, hein, qui ne sont pas pour rien dans l'histoire de son suicide tragique en 1940 à Portbou. Alors pourquoi secret ? Bah parce que en fait ça n'est pas un discours philosophique au sens où Schelling ou Hegel ou même Michel Foucault vont chercher à constituer, vont penser le discours philosophique comme si ce qui doit notamment se singulariser et se définir en propre, notamment dans une relation singulière et proprement philosophique au langage. Alors évidemment, vous n'avez pas la même conception du discours philosophique chez Schelling, chez Hegel ou chez Michel Foucault. Je dis Michel Foucault puisque on vient de voir paraître un livre de Michel Foucault sur le discours philosophique, qui est un texte inédit qui me semble très important parce que Foucault est un penseur du discours. C'est un penseur du discours. C'est comme l'a montré Derrida, un cartésien. Le discours de la méthode, on commence du discours à la méthode jusqu'au discours... l'ordre du discours et la leçon inaugurale de Michel Foucault au Collège de France. Voilà. Et alors, Benjamin, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus inassignable. Et c'est, pour moi, avant Derrida, en deçà de Derrida, le premier grand penseur de l'écriture. Et j'ai essayé de montrer que cette pensée de l'écriture, elle prenait une forme, elle procédait par constellation. Et en fait, elle s'inscrivait dans la question de la traduction, de la photographie, de la cinématographie, de l'historiographie. Et donc, il y a quelque chose qui se dessine en toile de fond et de manière complètement diffuse et transversale dans ces textes de 1916 à 1940. C'est une pensée de la graphie générale. Et donc, ça ne peut être qu'une philosophie secrète, c'est-à-dire c'est presque une philosophie en un sens impropre, parce que c'est une pensée d'écriture. Hein, et les philosophes ont du discours. Hein, c'est ça que j'essaie de sous-entendre dans mon travail de thèse, enfin qui n'était peut-être pas encore aussi clairement formulé, mais les philosophes essaient de... La philosophie, en tout cas depuis Descartes, elle est inséparable d'une conception du discours comme la dimension de la philosophie. Il me semble que chez certains penseurs, il y a une contre-voie ou une contre-allée qui se dessine, qui est celle d'une pensée de l'écriture. Et ces philosophes de l'écriture, ils sont très, très méprisés par les penseurs du discours. Ils sont très écartés, voilà. Et donc s'il y a une philosophie de Benjamin, c'est pas une philosophie proprement dite. Donc dire philosophie secrète, c'est presque une manière, alors j'aurais pu procéder, il y avait que des manières maladroites de procéder, mais c'était ma manière de dire que c'était pas proprement une philosophie et que justement ça a interrogé les limites de la philosophie, puisque une des choses passionnantes dans le travail de Benjamin, c'est que la pensée philosophique, et il est d'un philosophe d'une puissance inimaginable, il est un philosophe de la modernité, la philosophie rencontre la chose littéraire. Et quand elle rencontre la chose littéraire, elle est fondamentalement altérée. Et les philosophes de l'écriture, on leur reproche aussi de déployer une rhétorique, de donner une trop grande importance dans leur pensée à la rhétorique au sens non pas restreint mais général du terme, et à penser rhétoriquement. On dit « oh, c'est de la littérature ». Et donc il y a toujours ce mépris ou cette dévalorisation qui est là, alors que les philosophes du discours ne sont pas moins littéraires. Je veux dire, beaucoup de choses dans Foucault relèvent de ce que Derrida appelait le pathos littéraire. Si vous lisez le livre sur le discours philosophique, qui est passionnant, qui vient de paraître, le pathos de l'écriture de Foucault est partout, et surtout, il est prégnant dans les passages les plus importants où Foucault avance et dit des choses puissante et nouvelle. Et à chaque moment où c'est puissant et nouveau, il y a y a de l'effet littéraire chez Foucault. Donc c'est aussi, même si d'une certaine manière Foucault le dénie, où il y a quelque chose dans son discours qui l'écarte, c'est aussi une pensée qui s'écrit. C'est une pensée qui s'écrit. Et c'est pas pour rien qu'en 1966, c'est-à-dire au moment des mots et les choses et du discours philosophique, bah Foucault il est en train d'une certaine manière de... Alors j'ai un ami qui dit « renoncer à la littérature ». Je trouve que c'est très fort de dire ça. Je ne sais pas s'il a renoncé à la littérature, mais ça m'intéresse en tout cas cette formulation. Et en tout cas, il écarte la littérature, il renonce d'une certaine manière, il s'intéresse à autre chose.
On a beaucoup parlé du beau et du sublime lors de votre présentation, vu que pour vous c'était une notion assez importante par rapport à la question de l'autre et la question de l'art précisément. Et je me posais la question, est-ce que pour vous, en quoi l'idée du sublime est liée à celle de l'altérité ? Et j'irais même, est-ce qu'on peut dire que le sublime est une expression de l'autre, selon vous ?
Alors, merci la question, parce qu'elle finalement, elle me permet de répondre à votre première question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. Alors, d'abord, sublime, ça vient du latin, alors même si Kant est un penseur, il pense en allemand. Sublime, il y a deux étymologies possibles. D'abord, c'est un mouvement de soulèvement, proprement. Soulèvement, c'est le meilleur mot en français que je trouve. C'est-à-dire, on passe de dessous à au-dessus. Et donc, on perce ou on crève un plafond ou un plancher. Donc ce mouvement de soulèvement ou de insurrection. Alors insurrection, c'est ce qui ne va pas, c'est qu'il y a l'idée de rectitude qui n'est pas dans l'idée du sublime. Mais c'est un mouvement d'élévation qui passe de en dessous, de sub, à au-dessus ou à au-delà, à hyper en tout cas. Et le lime, ce qu'on rend en français par sublime, hein, puisque c'est un mot français, pour un terme allemand, le lime renvoie soit à quelque chose qui est de l'ordre de ce qui prend la tangente, qui part de manière oblique ou de travers, ou à ce qui transgresse ou dépasse ou brise une limite. Donc voilà ce que c'est étymologiquement sublime. Et donc chez Kant, l'analytique du sublime, il dit plusieurs choses. D'abord, c'est une esthétique anti-esthétique. C'est-à-dire, ça n'est pas la différence de l'analytique ou de l'esthétique, c'est-à-dire des effets du beau. Ça n'est pas, le sublime ne relève pas de la forme. C'est l'effet qui est produit par l'informe, le monstrueux, le grotesque, le laid, l'étrange. Donc c'est ce qui vient faire effraction. C'est l'étranger. Qu'on n'est pas prêt à accueillir, et donc c'est une intrusion, peut-être que c'est ça l'étranger, j'ai envie de dire le proprement étranger, c'est toujours un intrus, c'est-à-dire on n'est pas prêt à l'accueillir, et peut-être même qu'on le rejette, mais il est déjà là en nous, il est déjà entré. Et donc l'idée que dans l'art, alors là vous entendez bien que je sous-entends une dimension politique de la question, et une dimension éthique ou morale de la question. Peut-être que ça implique la question du racisme aussi, et du rapport à l'immigration, et aux exilés, et à l'étranger en général. Je ne suis pas sûr, j'ai entendu un conférencier dire qu'il ne fallait pas parler du grand autre, que c'était abstrait, qu'il fallait parler des autres, que l'autre c'était toujours les autres, mais moi je ne vois pas ce que ça change. Hein. Les autres c'est aussi général que le grand autre. L'idée dans le grand autre, dans le autre avec un A, pourquoi j'aime beaucoup ce concept qui est imparfait, hein, comme toutes les... C'est des expédients, tout ça. C'est parce que, dans le fond, ça tient éveillé en nous l'idée que c'est le grand autre, c'est l'impossible. On ne peut pas l'atteindre. C'est ce qui nous atteint, nous blesse. C'est comme... J'ai parlé à un moment hier dans la conférence de choc fantôme. Vous voyez, c'est comme s'il y a une présence absente. Il y a un fantôme qui était là. Et par conséquent... Il y a de l'impossible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est Lacan qui définit le réel comme l'impossible, et là ça correspond vraiment à ça. Et donc le sublime, c'est ce qui est éprouvé devant... Lacan ouvre la possibilité d'une réflexion et d'un travail qui relève de l'art abstrait, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est un tracé ou un tracement séparé, ab ou absolu, donc c'est le séparé avec lequel on n'a pas de relation, parce qu'il est séparé définitivement. Pour revenir à ce rapport avec la loi morale, en fait, cet effondrement qui produit un accroissement des forces vitales, dit Kant, nous fait sentir notre destination suprasensible, c'est-à-dire nous fait sentir qu'on est destiné à avoir une relation par la pensée ou par l'admiration ou par le respect moral à de l'eau du grand autre. Et ce grand autre, chez Kant, il prend une forme républicaine, hein, c'est un révolutionnaire, Kant. C'est-à-dire, c'est quoi cette forme républicaine ? C'est pas la rencontre du visage de l'autre, comme chez Lévinas, mais c'est que toute l'humanité est inscrite en moi. Alors c'est abstrait, c'est rationaliste, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a tout de même la possibilité d'une communication entre tous les êtres humains, mais elle se fait de l'intérieur de soi. C'est-à-dire, on découvre en soi quelque chose qui est commun à tous. Et on découvre la possibilité d'un accord, parce que justement, il n'y a que des accords, dit Kant. Par exemple, une des premières choses dans l'analytique du beau, un des premiers paradoxes les plus forts, c'est de dire que le beau se distingue de l'agréable, en ceci que l'agréable, c'est la sensation de plaisir qu'on éprouve sans une réflexion de notre esprit, par exemple, qu'on éprouve en buvant du vin des Pyrénées. Et là, on dit à chacun son goût, c'est-à-dire le vin des Pyrénées te plaît pas, tu préfères le vin de Saint-Émilion. À chacun son goût, c'est-à-dire tout est relatif, tous les goûts, les couleurs sont dans la nature. Et là, Kant dit, dans ce cas-là, dans le cas de l'agréable, le goût n'existe pas. Le jugement de goût n'existait pas, ça ne relève pas du jugement de goût. C'est paradoxal, puisqu'il s'agit du goût pris en buvant du vin. Maintenant... l'analytique du beau commence justement en ce point où il y a une prétention à l'universalité d'un jugement qui est pourtant, dit Kant, subjectif, c'est-à-dire que lorsque j'éprouve du plaisir au beau et à ce qui est esthétique, c'est-à-dire à la belle forme, ça n'est pas une qualité de l'objet, c'est un effet sur le sujet, c'est-à-dire que c'est un effet sur sa sensibilité, mais c'est un effet pris à la réflexion. Et donc, à la différence de l'agréable, le jugement de goût a une prétention à l'universalité, c'est-à-dire prétend qu'il y a un accord possible avec toute l'humanité, parce que et alors que c'est sans concept, c'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer qu'une chose est belle. On ne peut pas démontrer, par exemple, mathématiquement ou philosophiquement, il n'y a pas de concept du beau. On n'applique pas un concept à un cas. Ce n'est pas un jugement déterminant de connaissance, c'est un jugement de réflexion. Mais pourtant, il y a une prétention à l'universalité et elle se manifeste, cette prétention à l'universalité, non pas dans un accord effectif entre les êtres humains sur la question du beau, mais dans un désaccord, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrête pas de se disputer sur la beauté. Voilà, donc c'est le premier paradoxe fort de l'analytique du beau, et c'est déjà, ça se prépare la possibilité de mettre en relation les questions de la moralité et celles de l'art. Il y a des enjeux communs, on va dire.
Alors, une dernière question juste, qu'est-ce que vous conseilleriez à un étudiant qui essaye de s'intéresser à la philosophie, par quoi on commence ? Et vraiment rapidement, du coup.
Oh, c'est très compliqué. On commence par la chose la plus importante, allez, je vais dire ça comme ça, c'est on commence par lire des livres, on les lit vraiment, on peut les lire par bribes, on peut surtout les relire, et on n'essaie jamais d'oublier une des questions essentielles des études de philosophie qui sont des études interminables, c'est qu'est-ce que ça change à ma vie ? Qu'est-ce que la pensée ? Qu'est-ce que ces textes-là ? Parce que vous savez, quand on a passer une vie dans les textes de philosophie et à fréquenter des gens qui en font leur métier, on s'aperçoit que, dans le fond, ces textes immenses, ils transforment peu de vies, ou ils transforment des vies à la surface. Et ça, c'est vraiment une chance des études et de la jeunesse, peut-être, des étudiants. C'est qu'ils ont accès à cette question et il ne faut pas la perdre. Cette question, c'est vraiment ça qui fait c'est une des questions qui fait la différence entre un philosophe, comme dit Nietzsche, Nietzsche distingue les artistes des non-artistes, donc je vais jouer à dire les philosophes et les non-philosophes. Les philosophes sont ceux qui passent leur vie peut-être dans des textes et pour qui ça modifie quelque chose, c'est-à-dire que sont ceux qui se posent la question de l'unité de la pensée et de la vie. Pourquoi est-ce que penser, pourquoi la vie est-elle inséparable de l'activité de la pensée, de penser le pensable et l'impensable, et pourquoi et comment est-ce que cette activité, cette lecture, par exemple, de textes aussi abstraits et lointains de nous que ceux de Kant, puisqu'on a parlé de Kant aujourd'hui, j'ai parlé de Kant avec vous, peuvent transformer notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes. Voilà.
Merci Marc Goschmidt.
Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne journée.
Bonne journée à vous.